BW. Droits et libertés.
Chacun, chacune d'entre nous ou presque possède une nationalité ou plusieurs. Or, on peut perdre une nationalité. On peut y renoncer volontairement, par exemple en signe de protestation ou pour en adopter une autre. Mais certains délits ou crimes peuvent aussi amener l'exécutif d'un pays à prononcer une déchéance de nationalité. Nous en parlons avec notre invitée de cette semaine, Bronwyn Manby. Elle est professeure spécialiste des droits de l'homme à l'Université de Londres et coordinatrice pour l'Afrique du Global Site, l'Observatoire mondial de la citoyenneté de l'European University Institute. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Bronwyn Manby, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les critères juridiques qui sont invoqués par les différents États pour justifier la déchéance de nationalité?
Ce qui est intéressant pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est seul le code de la nationalité du Tchad qui permet en principe déchéance de la nationalité pour les nationaux d'origine. Les autres pays ne le permettent pas que pour les personnes qui ont été naturalisées. J'ai vu, par exemple, que le Niger dit que la nationalité de certaines personnes a été suspendue, qui n'existe pas en termes juridiques, mais je suppose que c'est parce qu'il n'y a pas de disposition dans le code de la nationalité permettant la déchéance de la nationalité pour les personnes qui ont la nationalité d'origine.
Dans le code de la nationalité nigérien, qui remonte aux années 60, il y avait une disposition qui prévoyait que la déchéance de nationalité prononcée contre un citoyen nigérien pouvait être étendue à son épouse et à ses enfants mineurs. Est-ce que c'est une mesure qui est toujours en vigueur?
Oui, c'est toujours en vigueur. Si la femme et les enfants ont une nationalité étrangère, et il s'agit de dispositions qui touchent les personnes qui remplissent un emploi dans un service public dans l'État étranger ou dans une armée étrangère.
C'est une mesure qui existe par exemple en Allemagne aussi d'ailleurs, que quelqu'un peut perdre sa nationalité allemande s'il rejoint une armée étrangère et sert un État étranger. Quels sont les autres arguments qui sont employés souvent pour déchoir quelqu'un de sa nationalité? Il y a les accusations d'atteinte à la sûreté de l'État?
En général, il y a deux types de dispositions. Une disposition fondée sur la fraude, une personne qui a acquis la nationalité en mentissant, et autrement, question de sécurité nationale, y compris le terrorisme.
Et donc, quand vous parlez de cet exemple de quelqu'un à qui on reproche d'avoir acquis frauduleusement ou par erreur la nationalité, on pense au cas d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, à qui on a reproché d'être en fait burkinabé?
Exactement. Dans le passé, on a vu beaucoup de cas de politiciens qui, une fois ils sont devenus candidat pour la présidence ou le chef d'une partie d'opposition, tout de suite, il a été découvert comme c'est incroyable, mais toute cette période, vous avez été national de notre pays. Donc, dans la période où la double nationalité n'était pas permise, ou bien c'est toujours pas permis pour le président ou des personnes dans le gouvernement, la double nationalité n'est toujours pas permise.
Et ça, ce sont des choses qu'on voit aussi dans différents pays, que la déchéance de nationalité, finalement, est utilisée par certains gouvernements pour neutraliser, en quelque sorte, les opposants politiques. Ça s'est vu au Niger aussi, avec la suspension de la nationalité de plusieurs partisans du président déchu, Bazoum.
Donc, pour Ouattara, ce n'était pas exactement la déchéance de la nationalité. C'était la nullité de la nationalité, parce qu'on dit qu'il n'a jamais eu la nationalité ivoirienne. Parce qu'il avait la nationalité de son père, qui n'était pas vrai, mais ça, c'était l'accusation. C'était la même chose pour l'ancien président Kenneth Kaunda en Zambie, par exemple, aussi. Pour la déchéance, pour les raisons de sécurité nationale, etc., c'est un peu différent. On utilise des dispositions dans le code de la nationalité qui reconnaît que la personne a eu la nationalité, mais on le déchoit. on parle de la déchéance plutôt que la perte. Voilà. C'est une question très juridique, les distinctions, mais ce sont importants pour l'application de quel article du Code de la nationalité a un impact sur les mesures de recours.
Et justement, la déchéance de nationalité, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours prononcé par la justice ?
Normalement, c'est prononcé par un décret, normalement présidentiel. Bien sûr, on a en principe le droit de saisir un tribunal en disant que ce n'était pas pour contester, mais jusqu'à le moment que le juge dit que ce n'était pas valide, c'est toujours en effet.
Et quels sont les risques humains et juridiques encourus par les personnes déchues de leur nationalité ?
Toujours, la déchéance de la nationalité, c'est surtout en mesure de priver une personne de sa voix, de priver le droit d'entrer dans les débats nationaux. Parce qu'une fois qu'on n'est pas citoyen, on n'a pas le droit de participer dans les questions nationales. Hein. Mais en plus, voilà, c'est bien sûr que c'est le cas qu'une personne qui n'a pas une autre nationalité peut être rendue apatride, peut être migrant irrégulier partout dans le monde, sauf s'il est résident dans un pays qui reconnaît l'idée de l'apatridie et donne un statut de protection.
Il y a des textes de l'ONU, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît le droit à la nationalité. Il y a une convention aussi des années 60 qui essaie de lutter contre l'apatridie.
Non, tout à fait. Mais jusqu'à, disons, les dernières douzaines d'années, le statut d'apatride comme statut de réfugié n'était pas très répandu. En Afrique de l'Ouest, il y a seulement la Côte d'Ivoire qui a ce processus pour reconnaître une personne qui est apatride.
Dans l'entretien que nous avons eu avant cette interview, vous avez souligné le lien qu'il y a entre le droit de la nationalité et la définition par un État de qui a le droit de faire partie de la communauté. C'est-à-dire que tous ceux qu'on déchoit de leur nationalité ou qu'on n'accepte pas dans le groupe, ce sont des gens qui sont un peu mis au banc de la société, ce que vous disiez tout à l'heure, ça prive de la voix. En quoi est-ce que c'est une définition en creux de ce que c'est que la société, ce qu'on définit comme n'étant pas membre de cette société?
Comme Anna Arendt a dit, le droit de la nationalité, le droit d'être citoyen et le droit d'avoir les droits. Vraiment, une personne qui n'est pas reconnue comme nationale, comme citoyen, comme ressortissant, n'a pas le droit de prendre la voix au niveau national. Et on le voit même dans ce type de déchéance de nationalité, pour raison de sécurité nationale, etc. Mais aussi pour les groupes de personnes, par exemple, les communautés d'origine burkinabé qui résident en Côte d'Ivoire depuis maintenant des décennies, depuis avant l'indépendance, qui n'ont jamais été reconnues comme des vrais Ivoiriens. C'est un enjeu électoral aussi. Hein. Mais qui a le droit de voter? Qui a le droit d'être politicien, d'être un fonctionnaire?
Je crois que vous êtes aussi assez critique vis-à-vis de l'enrôlement biométrique.
La question de l'identification est toujours une question qui regarde en deux directions. L'identification est à la fois une question de capacité de l'État. Il faut que l'État connaisse qui est dans le pays, combien d'enfants est-ce qu'il y en a pour créer des écoles, qui a le droit de voter, par exemple. C'est une question de capacité de l'État. C'est important.
Donc ça, c'est l'État civil, quel qu'il soit. Il faut un État civil à jour.
Le problème qui se pose est une question d'enregistrement biométrique sans l'État civil, sans savoir les liens entre les personnes, qui est l'enfant de ce parent, qui est né sur le pays, quelle est son identité. Donc l'enregistrement biométrique sans mettre à jour l'État civil risque de créer la surveillance, mais sans avoir les droits qui sont liés à un État civil. À l'indépendance, c'était seulement les Européens, les personnes d'ascendance française, disons, qui avaient le droit d'avoir un État civil. Les autres avaient seulement les passes qui permettaient le mouvement.
Qu'est-ce qui existe pour éviter les abus en matière de déchéance de la nationalité? Et puis, dans quel domaine se mobilisent, par exemple, les organisations de la société civile ou de défense des droits humains en lien avec cette question-là? Qu'est-ce qu'elles réclament?
Tout d'abord, il faut un état de droit. Ben, il y a des protections dans le code de la nationalité qui existent, mais par exemple, au Niger, en principe, on ne peut pas déchoir une personne de la nationalité qui est un national d'origine. Donc, la protection existe déjà, mais il s'agit d'un gouvernement militaire, donc qui ne respecte pas l'état de droit. Mais en outre, ben, il y a des cas où il faut une réforme du code de la nationalité. Il faut que la société civile parle des droits de toutes les personnes qui sont résidentes dans le pays, et pas seulement ceux qui sont dits des vrais citoyens. Parce qu'on commence toujours avec les personnes qui sont autres, mais après que les autres sont déjà exclus, le gouvernement, par exemple un gouvernement militaire, va venir pour vous aussi. Hein.
Oui, il peut déterminer que telle frange de la population n'est plus désirable sur le territoire.
Exactement.
Et est-ce qu'il y a des recours internationaux si on habite dans un pays, par exemple, gouverné par des militaires qui ont suspendu l'ordre constitutionnel et qu'on est soi-même frappé d'une sanction de ce type?
Bon, le régime international des droits de l'homme, il existe, il est assez faible. Il y a des principes. On commence avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit que nul ne peut être arbitrairement déchu de sa nationalité. Bon, c'est une déclaration. Même disposition dans d'autres traités, dans le pacte des droits civils et politiques. Mais à la fin, la seule chose que les autres pays peuvent faire, par exemple la France, c'est de donner une protection aux personnes qui ont été déchues de leur nationalité tchadienne ou nigérienne ou quoi, en France.
Parce que la déchéance de nationalité, quand elle frappe une personne, en fait, c'est une sanction souvent infamante aussi.
Tout à fait. L'idée est de le muter, hein, de dire qu'il ne peut...
De réduire au silence.
Il est déchu des autres droits, et non, c'est pas seulement la nationalité, mais tous les autres droits.
Bronwyn Manby, merci beaucoup.
Ok, merci, au revoir.
Au revoir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Merci aussi beaucoup à Bronwyn Manby, professeure de l'Université de Londres et coordinatrice pour l'Afrique du Global SIT, l'Observatoire mondial de la citoyenneté. Retrouvez Droits et Libertés sur notre site internet dw.com/français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.